Nous allons écouter la lecture de deux passages de l'Écriture, le premier dans le psaume 135, à partir du verset 15. Psaume 135, à partir du verset 15. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Et il leur ressemble ce qui les fabrique, ce qui se confie en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion, l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. La deuxième lecture se trouve dans le livre, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15. Et je lirai, nous allons lire les versets 18 à 21. Donc une courte lecture. Je me demande si je n'avais pas déjà fait cette lecture il y a 3 semaines quand j'avais prêché au foyer. Jean 15, verset 18. Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Si le monde vous hait, du verbe « haïr », sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, de ce monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » La question qui sous-tend ce message est la suivante. Comment devons-nous vivre en tant que chrétiens dans un monde qui ne connaît pas Dieu et qui est tenté par le paganisme, avec tout ce que cela suppose? Et autre question qui ressemble, comment réagir à tout ce qui se passe autour de nous depuis cette position qui est la nôtre, dans le monde, mais pas de ce monde? Ce n'est pas forcément simple. Alors, il y a 5 parties dans mon message, ça peut faire un peu peur, mais elles ne seront pas très longues chacune. 5 parties. Et la première, accepter un sentiment de solitude. Accepter un sentiment de solitude. Nous ne sommes pas appelés à nous retirer ou à nous isoler dans des grottes ou derrière les montagnes. Nous devons seulement accepter de vivre dans ce monde un certain sentiment de solitude, un certain sentiment, on pourrait dire, d'incompréhension. Jésus l'a vécu. Par exemple, quand il avait 12 ans, Jésus était avec des docteurs de la loi, ses parents le cherchaient, et ce parent, finalement, le retrouve et lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et Jésus dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Et ses parents ne comprennent pas ce qu'il leur dit. Sentiment de solitude chez un enfant de 12 ans. Ses parents, Marie et Joseph quand même, hein, ne comprennent pas ce qu'il leur dit. À Gethsémané, à la fin de son ministère, à la fin de sa vie sur terre, peu avant son arrestation, Jésus dit à ses disciples, à Gethsémané, « Vous n'avez pu veiller avec moi une heure. » Et donc ces paroles que nous venons d'entendre, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Alors je me suis dit, « Haïr, c'est quand même un mot difficile. Hein » Alors, cherchez le verbe grec, « miséo ». Miséo veut dire aussi « détester ». C'est pas mieux, haïr ou détester. Alors on dira, mais est-ce que le monde nous déteste? C'est le paradoxe de la lumière, frères et sœurs. On aime la lumière, mais elle nous dérange également. Et donc il y a beaucoup d'œuvres qu'on préfère faire en dehors de la lumière. Et donc, comme Jésus était venu, non pas pour juger, mais pour apporter le salut, cependant, sa présence était un jugement au milieu des hommes. Pourquoi croyez-vous qu'on l'a mis sur la croix? Sa présence était un jugement, il fallait le supprimer. Et Jésus dit, ce qu'on m'a fait, on va vous le faire, parce que votre présence, elle ressemble à celle de Jésus sur la terre. On dirait, oui, mais on n'est pas Jésus. Ah, on n'est pas Jésus, on est quand même un peu les membres de son corps. Il est la tête, on est les membres, c'est pas loin, frères et sœurs. Ils m'ont détesté, ils m'ont aimé et détesté en même temps. Ah, ça ressemble à ce que nous pouvons ressentir, frères et sœurs, sur cette terre. Et donc l'homme est un animal, pas un animal, excusez-moi, l'homme est un être social. Je reproduis ce que j'entends à la radio des fois, hein, mais il faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Et comment vivre dans un monde de païens? C'est difficile. L'homme est un être social. Il aime être tranquille quand il a envie d'être tranquille, mais il aime aussi être entouré. C'est normal. Réseaux sociaux et compagnie. Voilà. Et personne ne dira que c'est mal de chercher à vivre avec les autres. Mais cependant, le sentiment de solitude que les chrétiens, pas que des chrétiens, mais notamment des chrétiens, peuvent ressentir à certains moments, sentiment de solitude peut constituer une sérieuse épreuve pour certains. Au point où ils vont être tentés de s'associer, plutôt s'associer qu'être seul. Oui, vous voyez un enfant dans la cour de l'école, mais dans le milieu professionnel, au cours d'une fête, d'un repas, s'associer au lieu d'être seul, s'associer au risque de trahir le Seigneur. Ce que la Bible appelle un adultère, quand même. Et là, je pense bien sûr au psaume 1er, que vous connaissez, où il est dit du juste, il ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et je pense que bien souvent, les incroyants peuvent être associés à des moqueurs. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible laisse entendre qu'en fait tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait que Dieu existe. Et qu'un jour nous rendrons compte devant lui. Tout le monde le sait. Mais on préfère jouer avec ça en disant on verra plus tard. C'est ce que la Bible appelle les moqueurs. On se moque de la vérité plutôt que de l'accueillir sérieusement. Voilà. Eh bien, le juste ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Je pense à cette parole de Jérémie. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs pour me réjouir. À cause de ta puissance, je me suis assis solitaire pour ne pas t'irriter. Mon deuxième point, je l'ai appelé la tristesse plutôt que la colère. Après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, voilà, c'est le dernier mot que je dirai à ce sujet, quand même nous avons entendu des sentiments de tristesse, des sentiments de colère de la part des chrétiens, pas seulement des chrétiens, aussi d'autres croyants qui ont été choqués. Et on peut le comprendre. Sentiment de tristesse, sentiment de colère. C'est mieux que de s'asseoir sur le banc des moqueurs et dire « on a passé un bon moment ». Mais mon idée, c'est que pour nous, la tristesse convient mieux que la colère. J'ai envie de dire cela. Voilà. Remarquez que la colère n'est pas toujours un péché. La Bible parle de la colère de Dieu quand même, hein, de l'irritation de Dieu. Jésus a été irrité plus d'une fois, il n'a pas péché. Et l'apôtre Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Donc la colère, dans certains cas, n'est que le reflet de l'irritation de Dieu. Ça, ce n'est pas étonnant, finalement. C'est même plutôt bon signe. Dans certains cas, il vaut mieux être en colère que de rigoler. Bon. Mais cette colère ne devrait pas s'installer durablement. Elle devrait avoir une limite. Mais ma pensée, c'est que, compte tenu de ce que nous sommes, quand nous regardons en nos propres vies, tout simplement, la tristesse convient mieux que la colère. Laissons la colère à Dieu. On l'a chanté, d'ailleurs, je crois, tout à l'heure. Hein? Voilà. Il s'occupera de nos ennemis. Laissons la colère à Dieu. Et la tristesse, Jésus l'a connue. Le Saint-Esprit même peut être attristé. L'apôtre Pierre dit de Lot, « Lot, il tourmentait son âme jour et nuit de ce qu'il voyait et entendait, de ce qui se faisait autour de lui. » Et souvent je pense au psaume 137, le peuple est à Babylone, sur une terre étrangère. Le début du psaume 137 a une puissance d'évocation poétique extraordinaire, hein, je lis les premiers versets. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos oppresseurs nous demandaient des chants, nos oppresseurs de la joie. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Voilà. Nous ne sommes pas les premiers à ressentir de la tristesse dans un monde qui ne connaît pas Dieu. Troisième point, trouver la bonne distance. Trouver la bonne distance, ce n'est pas facile. Si je suis trop loin, je suis un indifférent, je mène ma vie dans ma bulle. Si je suis trop près, je vais être emporté par mes émotions, mes sentiments, je vais surréagir peut-être. Dans un procès, un témoin n'est ni indifférent, ni trop impliqué. S'il est indifférent, il dit « j'ai rien vu ». S'il est trop impliqué, il se met en colère. Mais si un témoin se met en colère, c'est suspect. On dit « bon, termine et va te rasseoir ». Il faut qu'il dise simplement « voilà ce que j'ai vu ». Prendre trop à cœur une situation n'est pas mieux que de faire semblant d'avoir rien vu. Prendre trop à cœur va nous conduire dans des pièges plusieurs fois. La Bible donne beaucoup d'exemples, mais pas seulement la Bible, de comportements impulsifs qui ont conduit à des situations difficiles, qui ont porté des fruits amers. La connaissance que Dieu nous donne de lui, de nous-mêmes et du monde, nous permet de trouver une juste distance, ni trop près, ni trop loin. Par rapport aux événements qui se produisent. L'espérance aussi. L'espérance nous permet de regarder un horizon plus lointain, pas simplement d'être fasciné par ce qui vient de se passer là. Vous voyez comment la radio, la télévision cherchent à nous impressionner chaque fois, comme si on était dans un film finalement. Hein. Il faut que le cœur batte. Eh bien, trouvons la distance juste par rapport à cela. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le péril, ou l'épée? Ça veut dire que toutes ces choses peuvent arriver, mais aucune ne nous séparera de l'amour de Christ. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Quand nous lisons la Bible, quand nous prions, nous trouvons la distance juste par rapport à ce que, aux circonstances qui nous entourent. Jésus a vécu cela. Nous avons des engagements à prendre en ce monde, mais pas comme des militants, plutôt comme des témoins. Quatrième point, nous devons être prêts à souffrir s'il le faut. Jésus l'a vécu. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Remarquez, Jésus dit aussi, ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Et donc Jésus ne noircit pas le tableau. Ne noircissons pas le tableau, il est assez sombre comme cela. Mais Jésus n'exclut pas les situations difficiles. Ce n'est pas un porte-bonheur. Et donc ces situations difficiles peuvent survenir. Il suffit pour nous de ne pas souffrir en tant que malfaiteurs. Si j'ai souffert parce que j'ai agi comme un insensé, ce n'est pas pareil que si j'ai souffert parce que j'aime Jésus-Christ. Ce sont deux situations différentes. Est-ce que le chrétien est prêt à en découdre à chaque instant ? Non. Un soldat ne tire pas sur tout ce qui bouge. Dieu veut que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est écrit, 2 Timothée 2, Dieu veut que nous menions une vie tranquille et paisible. Mais est-ce que nous allons nous taire pour être tranquille et paisible ? La réponse est non. Jésus ne l'a pas fait. Soyons simplement des témoins véridiques. Et si on nous maltraite, ne jouons pas les victimes. Les apôtres ne l'ont pas fait. Confions-nous dans le Seigneur. Ceux qui ont vécu des situations d'oppression nous disent, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà dans une situation d'oppression qui risque de s'aggraver et vous n'êtes peut-être pas prêt à l'affronter. Voilà. L'affronter, ça ne veut pas dire prendre les armes, ça veut dire se préparer à souffrir. Est-ce que c'est un discours extrémiste ? C'est l'esprit des béatitudes. Mon dernier point, que la joie demeure. Quand les disciples, quand les apôtres ont été battus, arrêtés, le livre des Actes dit ils se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux de souffrir ? Non, joyeux d'être fidèle à notre Sauveur, d'être les témoins de son royaume, qui est un royaume intérieur, comme Samuel l'a rappelé. Peut-on souffrir et connaître de la joie ? La réponse est oui, Jésus l'a vécu. Jésus est un homme de souffrance, Jésus fut un homme de souffrance, mais il dit, vous aurez en vous ma joie, et ma joie est parfaite. Et donc c'est possible de vivre une situation de tristesse et d'avoir au fond de son cœur une joie qui ne s'éteint pas. Une joie qui est portée par le Saint-Esprit, comme l'amour. Et donc si elle est portée par le Saint-Esprit, quelque part elle est intouchable cette joie, même si elle est environnée de tristesse. Je termine. Cette joie est importante. Cette joie est importante. Car elle va nous préserver de l'amertume, d'une tristesse excessive, de la colère, de l'esprit de revendication et de la violence. Cette joie nous préserve aussi de l'ingratitude. Nous ne méritons rien, frères et sœurs, sur cette terre. Tout ce que nous avons est cadeau de la part de Dieu. Ne soyons pas ingrats. Ne nous plaignons pas tout le temps. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants, même si notre cœur pleure de voir tant d'incrédulité presque partout. Voilà, je vais prier. Seigneur, tu nous as invités ce matin à nous tenir proches de Jésus, qui s'est tenu lui-même proche de nous. Et chacune des situations qui est la nôtre n'est pas trop particulière pour que Jésus soit proche de nous et que nous soyons proches de lui. Finalement, dans la même foi qui fut la sienne.
dans le désir de plaire à son Dieu, à son Père. Garde-nous, Seigneur. Merci pour l'instruction de ta parole et merci pour ton esprit par lequel nous ne sommes pas orphelins, mais des fils et des filles rachetés. Nous regardons sur toi, Seigneur. Secours-nous dans ta bonté. Amen.